enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'ai une question. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où le visionnaire décède quand l'Église est à la deuxième phase? Donc, il n'a pas eu le temps de préparer la relève.
Alors, si le visionnaire décède subitement, alors ça arrive parfois, et en général, c'est qu'il y a eu un problème qui ne nous est pas parfois connu. Parfois, c'est connu, parfois, c'est inconnu. En général, il faut le dire, ce genre de vision meurt très souvent. Pourquoi? Parce que, là aussi, on l'a vu bien des fois, quelqu'un a une vision, il commence une œuvre. Et il est entouré. Donc on est dans la phase de la deuxième phase. Donc on s'aperçoit que la personne est souvent très mal entourée. Elle n'a pas encore eu le temps de former des leaders et les cœurs n'ont pas été encore éprouvés. Et dans cette phase de stabilisation, c'est là où ça se coupe souvent. Donc parfois, malheureusement, le visionnaire décède dans cette phase-là. Ça peut arriver des fois de maladie, des fois parce qu'il s'est mis juste en dehors de la volonté de Dieu et le diable fait un sale coup, des fois parce qu'il n'a pas écouté son intuition, des fois, enfin, il y a différentes raisons pour cela. La succession donc n'est pas du tout prête. Et d'un seul coup, on voit un certain nombre d'autres leaders potentiels qui se lèvent et très souvent l'organisation éclate. Très souvent. Ça, c'est le cas le plus courant malheureusement. Et on s'aperçoit que la vision va mourir, bien sûr, parce que les gens se déchirent entre eux, se disputent entre eux, et très souvent ça se passe. Alors parfois, il y a quelqu'un qui fait pas beaucoup de bruit, qui d'un seul coup Dieu va le... Quand l'organisation, il y a des bons cœurs dans l'organisation, à ce moment-là, Dieu va susciter peut-être quelqu'un d'autre qui va venir. Très rarement, quelqu'un va venir de l'extérieur et va s'insérer dans la vision. C'est très très rare, c'est vraiment exceptionnel, ça s'est très rarement vu. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui va ne pas faire beaucoup de bruit forcément et qui va émerger. Dieu va lui parler, Dieu va le oindre et il va se lever. D'autres vont un peu contester pendant un temps, mais au bout d'un moment, il va percer et reprendre la suite de la vision. Parce que quand Dieu donne une vision à quelqu'un, c'est parce qu'il y a un besoin particulier, il voit des cœurs. Dieu fonctionne avec les cœurs. Et à ce moment-là, il y a souvent Dieu va redonner quelqu'un pour continuer à porter la vision. Des fois, la vision n'est pas bien continuée, il faut le dire. C'est compliqué, hein. c'est pas très facile. Autre question?
Vous avez dit que être pasteur, c'est une vocation que je répète. Mais on constate que aussi il y a des gens qui font des églises avec leur propre business à côté ou qui n'ont pas de vocation pour faire l'église. Est-ce qu'il y a des moyens pour les chrétiens qui vont aller dans une de ces deux églises pour savoir si son pasteur a vraiment une vocation ou non?
Ben, c'est très simple. Quand vous entrez dans une église, il y a deux choses qui sont importantes. Si le pasteur, vocation, il peut avoir un appel, quand on appelle vocation, mais surtout une onction. Quand il n'y a pas d'onction pastorale dans un endroit, une œuvre ne peut pas s'épanouir. Donc quand vous rentrez dans ce genre d'église, qui peut être tenu par un ancien, par quelqu'un qui est brave, un businessman ou toutes sortes de personnes. On voit des fois des businessmen démarrer des églises. Et c'est une catastrophe. Alors ils sont tout le temps en train d'appeler un pasteur. Alors il y a un pasteur qui arrive, ou un soi-disant pasteur, et très souvent ils n'arrivent pas à s'accorder, parce qu'il ne peut pas y avoir deux têtes, c'est pas possible. Ou quelqu'un, un businessman qui est au-dessus de l'onction pastorale. Ça c'est l'erreur qu'on voit parfois. Et ce qui fait que ces gens-là ne restent pas. Ils exercent un peu leur pastorat, mais ils voient que ce sont de simples marionnettes. Alors c'est très simple. Quand on rentre dans une église, de toute façon, c'est clair. On voit tout de suite, en tout cas, moi, je vois rapidement la température. Tu sens s'il y a la présence de Dieu ou il n'y a pas. Ou si les gens font du chauffage, hein, comme j'appelle ça. Ils sont en train de se chauffer, en train de crier tout ce qu'ils veulent, et chanter tout ce qu'ils veulent, mais il n'y a pas d'onction. Et aussi, voir la parole qui est apportée. Ça, c'est clair. Un pasteur doit apporter une parole qui doit parler aux gens. Si jamais les gens viennent voir leur pasteur en disant « Pasteur, on avait l'impression que tu me décrivais, c'est exactement le problème par lequel je suis passé cette semaine », ça veut dire qu'il n'y a pas l'onction pastorale, c'est clair. Parce qu'un pasteur va répondre aux besoins de ses brebis. C'est son don. Ça ne peut pas s'inventer, ça ne peut pas se créer, ça ne peut pas se recevoir par un certificat, c'est un don qui vient du ciel. Donc ça, on le ressent. Et d'ailleurs, ces églises-là, entre guillemets, églises, ne prospéreront jamais. Elles ne fleuriront jamais. Et ça, le temps va le montrer. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se font avoir, qui vont dans ce genre d'église, soit parce qu'ils voient quelqu'un businessman qui a des sous, donc ils disent tiens, là-dedans, au moins il y aura quelque chose, au moins on ne va pas souffrir de difficultés financières, et finalement ils se trompent eux-mêmes. Autre question?
S'il y a des critères pour choisir qui doivent vous entrer, parce que là aussi, c'est difficile d'avoir les gens qui remplissent les critères que vous avez dénoncés, quel est le conseil donneriez-vous à une unité qui commence? On doit avoir des gens qui vous entourent, qui doivent travailler avec vous, vous n'êtes pas si père, en tout cas, vous l'avez dit, c'est vrai. Je crois que si on met quelqu'un, par exemple, on se retrouve que ce n'est pas la personne qu'il faut à l'homme. Pour la remplacer, quels sont les conseils donneriez-vous au cas où on voudrait mettre des gens tout autour, mais aussi si on découvrait que la personne, pour ne pas frustrer la personne, pour l'aider aussi tout.
Alors, de toute façon, vous êtes obligé de commettre des erreurs. C'est bien. Vous ne pourrez jamais choisir une personne qui va être autour de vous toute la vie. La plupart des gens que vous allez choisir au départ ne resteront pas avec vous. Ça, il faut que vous le sachiez. Et ils vous créeront certains problèmes aussi. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc, au départ, on prend les gens qu'on a. Souvent, malheureusement, on se fait plus rouler par le don qu'ils ont plutôt que par le cœur. Parce qu'on a un besoin. Et ça, c'est, par contre, c'est une erreur qu'il faut essayer d'éviter de faire, mais qu'on commettra obligatoirement. Par exemple, si vous avez le choix entre deux personnes pour diriger la louange, si vous voyez quelqu'un qui est doué au piano et qui chante très bien, quelqu'un qui est beaucoup moins doué et qui chante beaucoup moins bien, obligatoirement, vous direz, je préfère prendre la personne qui chante bien. Pourquoi ? Parce qu'à court terme, vous avez besoin de quelqu'un. Mais cette personne, souvent, vous posera des problèmes si elle n'a pas de caractère. Donc, l'observation, en fait, de toute façon, vous ne pourrez jamais savoir ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un si vous n'avez pas mis cette personne au travail, à l'œuvre. Ça, vous êtes obligé de tester les gens. Mais d'ailleurs, la Bible nous dit d'éprouver les anciens, entre guillemets, c'est-à-dire d'éprouver ceux qu'on met dans les positions de responsabilité. On a besoin de les éprouver. Maintenant, la Bible nous donne des critères généraux, en fait, que ce soit quelqu'un qui tienne sa vie correctement, qui n'ait pas de péché, qu'on voit de façon évidente. Ça, on ne peut pas mettre quelqu'un qui vit dans le péché dans une responsabilité. Ça, c'est hors de question. Bon, maintenant, vous allez apprendre, là aussi c'est l'art du leadership, c'est qu'on apprend à discerner les cœurs. Et pour discerner un cœur, c'est pas par révélation que ça se fait au départ. Bon, il y a des gens qu'on ressent pas au départ. Si vous les ressentez pas, vous attendez. Vaut mieux attendre. Il y a d'autres personnes, vous avez l'air de penser que bon, ils peuvent faire l'affaire. Là, vous les mettez, vous regardez. Mais le mieux, c'est de leur donner une responsabilité avec un temps limité. C'est de vous dire, bon, écoute, pendant 6 mois, on va voir. Après, je te dis à l'avance, et là, il faut bien le faire. Mais je sais que des fois, avec les barbundis, c'est pas facile. Vous leur dites quelque chose et ils entendent autre chose. C'est souvent le cas. Donc, là aussi, bon. Mais dans ces cas-là, le mieux, c'est de dire à la personne, ok, devant témoin, devant votre épouse ou quelqu'un d'autre personne, on dit, voilà, ok. Vous lui parlez, vous dites, bon, écoute, la responsabilité est pour 6 mois, renouvelable, mais pour l'instant, c'est pour 6 mois. Donc, dans 6 mois, on fera un bilan de ce que tu fais. Le mieux, c'est de faire ça. Comme ça, vous lui donnez une responsabilité, mais avec un temps limité. En disant, entre-temps, si jamais il y a un gros problème, sache que tu seras relevé de ta responsabilité. Je te le dis, et je te le dis devant témoin, quelqu'un qui est responsable. Le mieux, c'est votre épouse ou quelqu'un d'autre, éventuellement, en qui vous avez confiance. Et à ce moment-là, la personne sait qu'elle a une responsabilité limitée. Pendant 6 mois. Si vous voyez qu'au bout de 6 mois, ça a l'air d'aller, bon, vous pouvez reconduire les 6 mois ou mettre une année. Mais le mieux, c'est d'éprouver les gens sur le temps. De toute façon, je vous dis, tant que les gens ne sont pas sous pression, ils ne vous montreront pas qui ils sont. Ils vous diront, je suis avec vous, pasteur. Mais le jour où il y a la tempête qui arrive, c'est là où vous savez qu'ils sont vraiment les matelots, les marins qui sont avec vous, prêts à sauver le bateau. Il y a que dans, de toute façon, c'est clair. C'est seulement les moments difficiles où vous saurez qui sont vraiment vos réels collaborateurs, ceux qui ont vraiment un cœur pour l'œuvre et ceux qui ont des désirs personnels. Vous pouvez avoir quelqu'un qui travaille pendant des années, qui paraît très fidèle, et le jour où vraiment le bateau passe par une tempête, là, l'église passe par une tempête, c'est ces gens-là que vous connaîtrez vraiment, que vous saurez vraiment qui sont vos amis. Vous serez surpris, c'est là où vous découvrez que certains qui ne paraissaient pas être vos amis viennent se joindre au moment où il y a la tempête et ils sont prêts à risquer quelque chose au milieu de la tempête. Ces gens-là, ce sont des gens avec qui vous ferez du chemin après. Les autres abandonneront le bateau. Alors vous diront, non, moi, je suis plus avec toi, capitaine. Alors que pendant des années, vous avez travaillé ensemble, vous avez donné des responsabilités à cette personne, était connue, et ces gens-là iront raconter des trucs sur vous et partiront avec un certain nombre de personnes de l'église. Oui, pasteur Denis, vous avez une question, pasteur Denis. Amen.
Vous avez dit que vous avez vécu sur au moins 3 continents.
Oui.
Qu'est-ce qui ne va pas avec nos leaders africains? Qu'est-ce qui ne va pas avec nos pasteurs? On dit que les Noirs africains prient beaucoup.
Oui.
Mais c'est comme si on arrive toujours à la 2e étape, maximum à la 3e. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas?
Je crois qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas. D'abord, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui se convertissent amène beaucoup de gens à créer ce qu'ils appellent des églises. Parce que c'est facile. Par exemple, je suis dans l'église du pasteur Denis. L'église du pasteur Denis, il y a 300, 400, 500 personnes. Je vois que le pasteur Denis prêche, mais il ne veut pas me donner la prédication. Alors, au bout d'un moment, je suis fâché parce que j'ai un appel de Dieu. Moi aussi, je veux prêcher, pasteur Denis. Et le pasteur Denis refuse. Pour différentes raisons, légitimes ou non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à créer un groupe dans l'église, partir avec eux et créer ma boutique. C'est ce que les gens font actuellement. Et ils se retrouvent à 40 ou 50. Donc ils disent, ça y est, ça vient du Seigneur. Parce qu'il y a du monde. Alors, le problème, c'est que d'abord, il y a très peu de gens qui comprennent le ministère actuellement en Afrique. Moi, je rencontre beaucoup de gens. J'ai beau faire des enseignements sur le ministère, beaucoup de gens ne comprennent pas le ministère en Afrique. Je pense que ça vient un peu du passé où les gens se respectent par la peur. L'aspect du chef, moi si j'ai la position, tu dois me respecter, sinon attention. Et les gens se manipulent facilement par la peur. Ça c'est le problème qu'on a en Afrique, la manipulation par la peur. Le leader qui fait peur. Si je ne t'obéis pas, waouh, donc je fais semblant de t'obéir. Et ça c'est un problème. Et il ne peut pas y avoir de respect s'il n'y a pas un amour mutuel. Et les gens souvent cachent leur cœur. Donc, ils se cachent, et au bout d'un moment, ça éclate. Alors, je crois qu'il y a un problème aussi d'abord, de manque de compréhension du royaume. Ça, c'est numéro un. Parce que manque d'enseignement, en partie. Les cœurs doivent être travaillés aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de problèmes. En tout cas, les Burundais, il y a beaucoup de problèmes. Les gens ne disent pas la vérité. Parce que vous apprenez dans l'éducation à ne pas dire la vérité. Il faut toujours mentir quelque part. C'est comme ça que beaucoup de gens sont éduqués. Donc, ce qui fait que peu de gens sont capables de dire réellement ce qu'il y a dans le fond de leur cœur. Ils disent un message et finalement, on se dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je le connais bien. Bon, et le qu'est-ce qu'il a voulu dire, ça voulait dire, non, quand il a dit ça, il a dit ça, mais de la certaine façon. Il n'a pas voulu dire... Donc, on est obligé d'avoir l'interprétation des langues, ça on le sait. Bon, donc déjà, ça, quand un leader est comme ça, c'est pas bon. Bon. Donc je pense que ça va changer de plus en plus. On a besoin. Mais on le voit dans la politique aussi. On voit quand les gens font de la politique, ils ont des idées qui sont fausses. Et la plupart des gens qui sont dans la politique ont étudié à l'étranger. Déjà, les gens ont une image du leadership qui est fausse. Et les pasteurs ont tendance à reproduire certains modèles. Des fois des modèles communautaires, des fois des modèles où ils veulent... Bon, il y a l'aspect de l'argent aussi, qui est vraiment, vraiment un problème. Il y a quelqu'un qui vient de rien... Il commence à prêcher, ça, il se prend pour un grand, et il suffit qu'on donne un peu d'argent, alors là, c'est fini, il se prend la tête, et c'est fini, on ne peut plus rien en tirer. Et ça, c'est un problème. Et les gens, en fait, le problème est plus sur le caractère. Le caractère. Et ça, c'est sur quoi on doit travailler. Et au niveau du leadership, ça va venir, ça je sais que ça va venir. Dans 10, 15, 20 ans, on aura des bons leaders. Mais entre-temps, on souffre. Les douleurs de l'enfantement. Non, mais c'est clair. Il faut que les gens... Et il faut que les gens apprennent à vraiment être... Beaucoup de gens sont touchés, mais peu de gens sont transformés. Donc, si on a une église où beaucoup de gens sont touchés et peu transformés, en tant que leader, on se retrouve dans une position difficile. Et nous, en tant que leader, est-ce qu'on a été touchés ou transformés? Tu vois? Et ça pose pas mal de problèmes. Il n'y a pas de secret. Hein. Si on veut vraiment faire l'œuvre de Dieu... On doit adopter le caractère de Dieu. Donc, on doit accepter un changement radical, complet, de A jusqu'à Z. Ce qui crée beaucoup de difficultés chez beaucoup de gens. Parce que beaucoup de gens veulent bien donner une partie de leur vie au Seigneur, mais pas tout. Et beaucoup de leaders qui veulent exercer le ministère, veulent bien exercer le ministère selon le cœur de Dieu, juste sur un petit morceau, mais pas sur le reste. Donc, ce qui fait que les parties où ce n'est pas du tout sanctifié, c'est le moment où, quand il y a des pressions, c'est ce qui ressort le plus. Et c'est là où il y a la chute, où il y a des gens soit qui s'enorgueillissent, soit qui tombent dans un péché moral, soit qui détournent de l'argent, c'est très classique, et ça pose beaucoup de problèmes. La majorité des églises en Afrique, le problème qu'ils ont, c'est le leader avec l'argent. Ils demandent des fonds pour des choses, et ils utilisent pour autre chose. Et ça, tu fais ça dans une église, tu signes ton arrêt de mort, au niveau des finances. Et c'est dommage, parce que finalement... Quand on gère correctement, les gens ont confiance. Parce que les Africains donnent beaucoup plus de sous que les Blancs. Hein. C'est clair. En France, ils sont beaucoup plus radins. Hein. La France, les 10 millions de francs, pour les Français, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Alors que franchement, au niveau des églises africaines actuellement en France, c'est celle qui prospère le plus actuellement. Elles sont bénies parce que quelqu'un qui vient d'Afrique, il sait donner. Si on lui dit vraiment que le Seigneur veut le bénir financièrement, il donnera facilement, sans aucun problème, s'il comprend le message. Et ça, on le voit d'ailleurs. Et les églises afro-américaines aujourd'hui sont beaucoup plus prospères aujourd'hui que les églises de souche américaine, blanche. Actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a un cœur, quand le cœur est touché, là, c'est extraordinaire. Et on le voit d'ailleurs. C'est là où on voit la différence. Ce qu'il faut, c'est arriver à toucher le cœur pour qu'il y ait une réelle transformation. Quand il y a une réelle transformation, on a beaucoup plus de gens motivés. En Afrique, on a beaucoup plus de gens motivés qui seraient prêts à aller beaucoup plus loin qu'en Europe, sans aucun problème. Mais il faut toucher le fond du cœur. Une fois que tu as touché le fond du cœur, alors là, c'est extraordinaire. Là, tu fais des choses et plus. Nous, on est au début de ça, actuellement, dans notre ministère. Autre question ?
Les titres qui existent, surtout en Afrique, vous avez fait allusion un peu au Congo. Et ces titres sont dits à quoi ? À une organisation où on trouve que le titre peut aider à organiser l'église, ou c'est tout simplement une manifestation, un désir d'être élevé ? Je ne sais pas. Je le vois de très loin, mais je me suis toujours posé cette question.
Je pense que c'est plus un désir d'être élevé, quelque part. Je crois que l'image de gens qui veulent des super titres, il y a des gens qui s'appellent apôtres, mais quand je vois leur ministère, je me dis ça, si c'est ça un apôtre. Des gens qui se mettent tout un tas de titres. En fait, souvent les gens essayent de s'élever par le titre. Et ce n'est pas le royaume de Dieu. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Et aujourd'hui, on n'a plus cet aspect du leader qui veut être servi, plutôt que se donner lui-même pour son peuple. Et c'est une perversion du leadership. C'est le monde qui voit les choses comme ça, avec tout un tas de titres, de machins. Moi, je rigole, des fois, je reçois des courriers électroniques, entre autres du Congo, parce qu'ils sont très forts de ce côté-là, il faut le dire. Alors, il s'appelle prophète machin truc, je suis prophète machin truc, et j'ai besoin d'un père spirituel. Bon. Si vous êtes prophète, mon cher, le Seigneur vous parle régulièrement. Plus qu'à moi qui suis pasteur. Mais bon, il y a vraiment. Bon, il y a des fois une non-compréhension aussi, il faut le dire, de gens qui veulent. En fait, qui se donnent des titres parce qu'ils ont entendu quelqu'un s'appeler comme ça, donc je vais m'appeler comme ça, etc., etc. Mais le titre n'est pas l'important. L'important, c'est l'onction qu'il y a sur vous. L'important, c'est votre caractère, ce que vous faites pour le Seigneur et les fruits que vous portez. C'est ça qui est important. Et quel que soit le sommet où vous arrivez, l'humilité doit rester de pair. C'est clair. Et ça, c'est un problème, c'est vrai qu'on rencontre souvent.
La première question, c'est concernant les contacts dont vous avez parlé, de s'entourer des gens et aussi d'aller vers l'extérieur. Chercher de l'aide, vu qu'on n'est pas polyvalent, il faut aller chercher de l'aide.
Au niveau des ministères, tu parles.
Maintenant, jusqu'où on peut aller pour chercher ces spécialistes dans ces domaines? Parce qu'on sait que à l'église, la plupart du temps, on n'a pas ces spécialistes. Même dans le monde évangélique qui nous entoure, on n'a pas ces spécialistes. Jusqu'où on peut aller jusqu'à aller voir le monde païen ou quelqu'un qu'on connaît? Où on a grandi ensemble et qui ne connaît pas le Seigneur, jusqu'où on peut vraiment dire j'ai besoin de toi pour ce domaine.
Je crois surtout, maintenant on a de plus en plus d'anglophones qui ont écrit dans pas mal de domaines. Donc apprendre l'anglais pour un ministère, c'est indispensable aujourd'hui. Ça c'est clair. Les anglophones ont beaucoup plus travaillé que les francophones. On peut trouver beaucoup de sources sur le leadership, sur les finances, sur la gestion. Même si ce n'est pas forcément complètement adapté au monde francophone, mais en tout cas pour les principes, il y a énormément d'anglophones qui ont écrit sur ces principes, etc. etc. Il est bon aussi de visiter des ministères, d'aller dans certaines conférences où il y a des ministères qui enseignent à propos du leadership, de la gestion, etc. etc. Ça se fait de plus en plus souvent. Chez Crèche-Côte de l'Art, ils étaient en train de faire un truc sur... à propos des plans de retraite pour les serviteurs de Dieu, enfin des choses comme ça, des choses qui sont très pratiques. Ils parlaient aussi d'assurance, d'un système d'assurance qu'ils vont mettre sur pas mal de façon nationale hein, aux États-Unis. Il y a quand même des choses intéressantes chez les Américains qu'on peut puiser. Il y a maintenant beaucoup de livres sur le leadership de plus en plus, écrits par des serviteurs de Dieu. Il y a John Maxwell, entre autres, mais il y a aussi d'autres serviteurs de Dieu qui ont écrit maintenant sur le leadership. Il y a des choses extrêmement intéressantes dans lesquelles on peut puiser maintenant. On est quand même dans des années où on peut puiser sur Internet aussi, il y a pas mal de ressources. où on peut chercher à savoir un petit peu ce qui se passe et prendre contact. Même si tu ne rencontres pas la personne, tu peux au moins avoir contact avec ce qu'il enseigne. Et, ce qu'il fait. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Les autres nous aident à comprendre certaines choses qu'on n'a pas. Bon, maintenant, au sein de l'Église, il y a toujours des gens. Je suis sûr que dans même précisément dans toutes les petites églises, on peut trouver au moins quelqu'un qui a fait de l'économie, qui se débrouille un peu en gestion. Bon, ça c'est facile, ça c'est indispensable. Quelqu'un qui a fait au moins quelques études juridiques, on peut en trouver un, plus ou moins, on peut se débrouiller, qui peut nous aider au moins à avoir quelques pistes où on cherche à droite, à gauche, des personnes qui peuvent nous donner un coup de main. L'important, c'est de repérer les dons. Même si on n'a pas énormément au départ, on peut au moins repérer quelques dons. Et après, le Seigneur va amener les bonnes personnes. S'il nous manque quelqu'un, il faut prier, il faut dire, Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider dans tel ou tel domaine. Et le Seigneur va t'amener les bonnes personnes. Maintenant, aller voir des païens pour ce domaine-là, personnellement, je ne suis pas pour du tout. Parce que les païens n'ont pas du tout cette perspective d'église. Les païens ont surtout cet aspect de profit, de finance, mais dans le sens de profit. Nous, on n'est pas là pour faire du profit, bien que tout ce qu'on doit faire doit être rentable. Ça, c'est aussi, c'est important. Hein. Quand on crée des projets, ça doit forcément être rentable dans tous les domaines. D'accord ? Mais on est très limité. Aller chercher chez les païens, non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a suffisamment de ministères aujourd'hui. Intéressons-nous des ministères qui ont réussi, qui sont bien développés, et savoir qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Mm-hmm. Tu verras, c'est des façons classiques. Maintenant, c'est sûr qu'un pasteur doit s'intéresser quand même à l'entreprise. L'entreprise a mis des structures, structures de secrétariat, structures de gestion, etc., etc. Ça, c'est bien. Avoir un minimum de culture. Ça, c'est pas compliqué. Ça, on peut aller vers des choses un peu païennes où ils ont étudié dans les domaines de l'entreprise. Ça, c'est du moche. Une grosse église est gérée comme une société. C'est clair, on est obligé. Parce qu'au niveau social, il faut qu'on fasse attention aussi. Quand on a des employés, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas dire maintenant, t'as péché dehors, ton contrat est cassé. Oui, mais bon, il faut quand même qu'il y ait des choses qui sont faites avant. Sinon, si la personne est mal intentionnée, elle vous mettra au tribunal. Je vous rappelle que même des chrétiens. Entre chrétiens se mettre devant des tribunaux païens, c'est un péché.
Comment peuvent fonctionner les cinq ministères dans la même église?
Dans la même église, c'est pas possible. Un pur enseignant sera un itinérant. Quelqu'un qui va d'église en église. Un évangéliste est un itinérant aussi. Un vrai évangéliste, il ne peut pas rester au sein d'une église. Un vrai évangéliste, il va à droite, à gauche. S'il est loin par Dieu, Dieu va lui donner les finances qu'il faut pour qu'il aille prêcher l'évangile à droite et à gauche. Quand vous avez une église de 100 personnes où il y a 3 évangélistes, 2 pasteurs et 5 enseignants, non, je suis vraiment désolé de vous le dire, les 3 prophètes. Non, c'est pas structurel du tout, c'est pas possible. Ou alors vous avez une église de 50 000 personnes. Non, il faut être clair. Ça n'a rien à voir.
Normalement, vous ne pouvez pas avoir des ministères pour toi.
Un pasteur peut être à la fois enseignant et ou évangéliste. Ouais. Mais ça se ressent tout de suite. Si c'est un évangéliste, souvent il va prêcher. Des messages d'évangélisation, son église va grossir, mais assez rarement, la plupart des gens ne resteront pas trop. Ça, c'est l'erreur qu'on voit. S'il est plus enseignant, il faut qu'il fasse attention, parce qu'il aura tendance à plus donner de la parole, mais malheureusement, à oublier les âmes perdues. Et ça, c'est mauvais aussi, il faut toujours avoir des compléments. C'est pour ça qu'on cherche des ministères complémentaires, qui permettent de visiter l'église et de donner un petit coup de fouet à l'église régulièrement. Mais les titres, attention, c'est pas le titre qui fait l'onction. Ça, c'est clair.
Concernant la collaboration entre le pasteur et ses proches, vous avez parlé que 99% le Seigneur parle au pasteur.
Très souvent, c'est normal.
Et vu la société actuelle, surtout en Amérique du Nord, les gens vont à l'extérieur, ils sont organisés, ils ont des structures, ils viennent à l'église avec ces pensées-là, cette façon de organiser les choses et faire ce shift du monde à l'église. Uh-huh. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous expliquer comment on peut déléguer les pouvoirs pour permettre que la vision puisse passer? Parce que les gens, des fois, ils sentent qu'il y a un blocage, ils sentent que le pasteur ne veut pas et ils sont frustrés. Mais quand on voit en Amérique du Nord ce qu'ils font aux États-Unis, tu vois qu'il y a plus de délégations, plus de spécialistes en tel, passeurs en tel, et on donne plus de liberté. Plutôt que, non, moi je suis qui dirige tout, je dis tout à le monde ce qu'il faut faire.
Ça dépend des pasteurs. Il y a des pasteurs qui se mettent là et ils mettent toute la délégation ici. Tu as des pasteurs, par exemple Billy Bells, ils partagent beaucoup le leadership. C'est bien et c'est pas bien. Ça, il y a de tous les côtés des difficultés. Si tu es trop loin des gens que tu délègues, c'est vrai que tu crées des frustrations, par contre tu protèges ton ministère. Si tu es trop proche, tu peux, y a des dons parfois qui s'exercent, mais parfois qui s'exercent mal, et c'est très difficile de corriger après. Donc parfois tu mets en danger ton propre ministère. Tout dépend du leader, tout dépend quel style de communauté tu veux toucher. Et ça, par contre, je sais que ça crée parfois des frustrations, où les gens disent, non, c'est le pasteur qui fait tout. Bon, c'est vrai, c'est le pasteur normalement qui a l'onction. Bon, maintenant, il peut déléguer. Maintenant, déléguer. Souvent, les gens, quand ils parlent de délégation, c'est surtout la prédication. Bon, ça, il y a des pasteurs qui doivent être assez sages. C'est toujours pareil. Par exemple, nous, on est deux pasteurs à l'église. Bon, bah, on se partage déjà un culte sur deux. Isabelle fait le mercredi, moi, je fais le jeudi. Bon, de temps en temps, je laisse le jeudi. De temps en temps, elle laisse le mercredi. On laisse rarement, pour les gens locaux, la place le dimanche. C'est très, très rare, tu vois. En général, c'est parce que c'est des gens qui viennent de l'extérieur, etc., éventuellement dans les séminaires. Parce que déjà, il y a deux personnes qui prêchent tout le temps, tu vois. Alors, maintenant, il y a des gens, tout dépend de la taille de l'église. Alors, maintenant, il y a des gens qui disent, il y a des pasteurs de jeunes, il y a des pasteurs de louanges, il y a des pasteurs de ceci, il y a des pasteurs de ça. Bon, ça, c'est plus des appellations, à mon avis, qu'un réel ministère pastoral. Tu vois, bon, ça aussi. Alors, des fois, ça permet de défrustrer certaines personnes. Maintenant, est-ce qu'une personne doit se sentir défrustrée si elle a un titre ou pas? Ça aussi, c'est... Est-ce que je me sens bien si j'ai un titre? Si je n'ai pas de titre, je me sens mal dans la délégation, je ne sais pas. Ça, je pense que c'est à voir. Je crois qu'il faut savoir travailler là, dans différents milieux où tu es. Tu as des gens qui sont beaucoup plus à l'aise quand ils... Bon, j'ai vu aussi des églises où personne ne voulait se dire pasteur. Ça marchait avec un groupe d'anciens. Mais alors, c'était une vraie catastrophe. Parce qu'il n'y avait aucune vision, personne ne menait les autres nulle part. Non, 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 je ne veux pas prendre la responsabilité, vas-y, prends la responsabilité. Non, 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 je veux pas. Et tout le monde s'excusait, et on n'avançait pas, et il ne se passait rien. Et ça, c'était une catastrophe. Donc, avoir un leader qui est trop fort, des fois, ça pose des problèmes aux autres. Avoir un leader qui est trop mou, ça posera aussi des problèmes aux autres. La délégation est quelque chose qui est très difficile à faire. Bon, alors maintenant, toujours pareil, il y a aussi des églises où on n'est pas à l'aise. C'est clair, les gens, des fois, ils vont dans des églises, ils ne sont pas à l'aise, il n'y a pas une bonne parole, ou la parole, il y a des choses qui ne sont pas bien prêchées, etc., etc. Là, c'est pareil, hein. Dieu nous donne quand même un certain choix d'être dans une église. Bon, et ça, l'église qu'on choisit, bon, je sais qu'il y a parfois des gens qui sont extrêmement frustrés parce que dans la région où ils sont, ben, il n'y a pas de bonnes églises. Et ça, parfois, c'est très frustrant. Il y a des gens vraiment qui cherchent une bonne parole, qui cherchent la bonne louange et l'adoration, et on leur dit, ben, ils me disent, voilà, il n'y a qu'une église là, où il y a un groupe de prière là, où il y a un truc où il y a tellement d'histoires, on ne peut même plus mettre les pieds, etc., etc. Et parfois, c'est difficile pour certaines personnes. C'est pour ça que Dieu veut susciter de bonnes églises, avec la présence de Dieu, avec la bonne parole, et avec le caractère qu'il construit chez les gens. Voilà. Et ça, c'est ce que Dieu dit aujourd'hui à son peuple, c'est ces églises-là qui peuvent prospérer, qui peuvent avancer. Et le pasteur peut déléguer, mais je vous dis, ça dépend totalement de la façon dont il organise. Ça dépend aussi des finances, parce que avoir des gens dans le staff, c'est bien, mais il faut les payer. Mmh. Ça aussi. Et aussi, il faut qu'ils soient occupés correctement. On a visité une église, c'est d'ailleurs l'église à Montréal de, comment il s'appelle, de Claude Hood. Je ne sais pas, ils ont combien de pasteurs? 15 pasteurs différents, c'est ça? Quelque chose comme ça. Ils ont des pasteurs dans tous les sens, ils sont vivants partout. Bon, ok, je ne sais pas. C'est une façon de voir les choses. Hein. Bon, moi, tu le sais, mon pasteur, ils avaient une église de plus de 3000 personnes, enfin 3000 environ. Il n'y avait que lui qui était pasteur. Hein. Pasteur Bob Yandian, il avait un pasteur assistant et c'était tout. Et par contre, le reste, il y avait le responsable de la louange, il y avait le responsable des jeunes. S'il y avait quand même un pasteur des jeunes, ils avaient commencé à faire ça. Bon, tout dépend. Au niveau du leadership, ça peut être très variable. Allez, encore une ou deux questions là. Oh, les femmes de pasteur posent des questions aujourd'hui. Allez-y, ma sœur.
Là, je voulais savoir jusqu'à quel point l'épouse du pasteur peut s'impliquer dans le ministère de son époux. Ouais. Est-ce que aussi l'onction du pasteur, c'est la même onction que son épouse? Est-ce que... comment ils doivent collaborer? Parce que ici, on a entendu tellement de choses. Lorsque la femme s'implique, on parle de akazu. Mm-hmm. Les gens disent, ah, le pasteur a fait l'église.
Sa famille.
Alors, ça dépend. Ça dépend. Il y a des vues très diverses là-dessus, et il n'y a rien dans la Bible qui nous dit telle ou telle chose. Il y a des églises qui fonctionnent énormément avec les familles. Par exemple, Kenneth Hagin, bon, lui, il n'était pas pasteur, mais son fils était pasteur et le petit-fils aussi avait été mis dans une position, très rapidement d'ailleurs, trop rapidement, ça lui a causé des problèmes après, dans une position de pasteur assistant. Bon. Alors, la femme du pasteur, ça dépend. Des fois, elle se sent vraiment appelée au ministère. Alors, elle a toujours une position très difficile, la femme du pasteur. C'est jamais une position facile. Parce que tout dépend si elle se sent impliquée dans le ministère ou pas. Il y a certaines femmes de pasteurs, elles suivent leur mari, mais de loin. Et elles sont très frustrées. Elles s'en prennent beaucoup, le diable leur tape dessus, et beaucoup sont déprimées parfois, parce que, en fait, elles ne sont pas dans le cœur du ministère. Il y a certaines femmes comme ça, surtout dans les églises pentecôtistes, j'ai vu ça, où la femme n'a pas le droit de prêcher, elle n'a rien droit de faire, donc elle reste tranquille, assise. Et la femme, on la voit souvent déprimée, où le pasteur, son mari lui dit « Bon, écoute, t'as qu'à faire l'école du dimanche. » Et tous les dimanches, elle est devant les gosses, en train de faire l'école du dimanche. Et ça, souvent, ça, ces femmes-là sont très malheureuses, elles sont très... Enfin, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent à l'intérieur d'elles, et elles sont très frustrées. La frustration ouvre souvent des portes à la chair, faut dire ce qui est, et des fois au diable. Alors, tout dépend. Moi, ma femme a un ministère, donc il n'y a pas de problème. Elle est appelée au ministère, donc elle est dans le ministère, donc elle prêche, elle fait un certain nombre de choses. C'est vrai que pour ma part, je mène quand même pas mal de choses dans le ministère, mais elle a certaines responsabilités, elle s'occupe de certains trucs dans les finances, etc., etc. Elle prêche un culte sur deux, elle fait une réunion sur deux, et à l'école biblique, bon, elle prêche à peu près, par rapport à moi, je prêche à peu près, enfin j'enseigne deux tiers et enseigne à peu près un tiers. Bon, mais le reste, je m'occupe beaucoup de choses dans l'église, dans l'organisation, etc., et elle s'occupe de diriger la louange. Donc ça dépend dans quoi la femme du pasteur se sent impliquée. C'est pas forcément, des fois, Dieu donne une onction ou deux, ça arrive, un couple pastoral, ça arrive, dans certains cas. Par exemple, chez Hillsong, en Australie, on sent que la femme du pasteur est devenue aussi pasteur, et c'est vraiment, elle a une onction, elle enseigne, elle prêche, et elle prêche très bien. Ouais, de temps en temps, elle prêche. Il y a des endroits, par exemple, moi, la femme de mon pasteur aux États-Unis, elle était assise sur l'estrade, mais elle ne prêchait jamais. Bon. Donc ça dépend de comment la femme du pasteur ressent les choses, si vraiment elle se sent appelée aussi au ministère ou pas. Parfois, Dieu appelle les deux, on sent vraiment que c'est un appel commun. Des fois, ce n'est pas le cas. Et des fois, elle ne s'implique pas. Ça dépend. Et ça, c'est elle de voir, elle doit prier le Seigneur. Son mari ne doit pas la bloquer, mais il ne doit pas trop la pousser non plus. Parce que parfois, il y a des maris qui poussent trop la femme du pasteur, en disant « tu devrais prêcher, tu devrais », puis finalement, il n'y a pas d'onction, il n'y a rien sur elle. Ça arrive des fois, ce n'est pas le cas, ça dépend. Des fois, elle va diriger la louange, des fois, elle va prêcher, des fois, elle va faire différentes choses, elle va faire du soin pastoral, etc., etc. Ça dépend. En fait, ce qu'il faut, je crois, pour le mari qui est pasteur, c'est de demander à sa femme « qu'est-ce que tu ressens que tu dois faire dans l'église ?» Voilà, plus ça. Et à ce moment-là, elle doit sentir pour qu'elle puisse s'épanouir aussi, c'est normal. Parce que si elle est complètement à l'écart, jamais dans les activités du mari, souvent on voit le mari à l'église, la journée, en train de s'occuper de ci, en train de s'occuper de ça, et la femme est à la maison, et elle est toute seule à ne rien faire. Et ça, par contre, je pense que c'est souvent mauvais pour elle. En tout cas, elle reprend. Elle se fait bombarder par l'ennemi très souvent, et il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui ont des sacrés problèmes de déprime. À cause de ça, parce qu'elles prennent tout le retour du ministère dans la tête. Ça, c'est clair. Et puis, les critiques, et les machins, et les trucs, et souvent, elles sont très blessées. Est-ce que ça répond à votre question?
Oui.
Ouais, ça dépend vraiment. C'est ce qu'il y a dans le cœur de la femme du pasteur.
Est-ce que maintenant les deux doivent avoir la même vision?
En général, on va ensemble.
Oui.
Si on est appelé en tant que couple, on va ensemble. Mm-hmm. C'est évident que si un mari est pasteur, il va impliquer toute sa famille. Donc il faut que la femme soit dans la vision aussi. Et très souvent, le Seigneur va parler aussi à l'épouse. Quand elle parle au mari, le Seigneur parle à l'épouse aussi. Ça, c'est très courant. Dieu ne fait pas, ne peut pas dire au mari « tu vas être pasteur » et puis l'autre est complètement à l'écart. Alors là, ça serait extrêmement mauvais. Bien sûr, si elle a un cœur sincère et ouvert au Seigneur. D'accord ? Et à ce moment-là, elle sait ce que le Seigneur va lui demander de faire au bout d'un certain temps. Mm-hmm. Mais c'est bon qu'elle soit impliquée dans une certaine mesure. Mm-hmm. S'il a vraiment un appel au ministère, qu'elle puisse exercer le ministère. Mm-hmm. Tout en faisant attention, quand elle est à la maison, on n'est plus dans le ministère. Et là, mm-hmm. on reste avec une tête, c'est le mari. Parce que ça, c'est le problème de beaucoup de femmes dans le ministère. Quand elles commencent à prêcher, elles commencent à se prendre la tête à la maison aussi. Elles vont prêcher au mari. Et ça pose beaucoup de problèmes. Ça, je vous garantis, il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui commencent à prêcher et qui terminent en divorce parce que à la maison, elles pensent que c'est la même chose que dans le ministère. Donc là encore, dans chaque domaine, la femme aussi doit avoir sa place. Le mari a sa place et la femme a sa place aussi. Alors, donc ça aussi, il y a tout un tas de respect de l'autorité en général que le Seigneur a donné dans tous les domaines. Amen. Quand les choses sont respectées, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Dieu nous a donné des lois spirituelles pour que ça fonctionne. Oui, frère évangéliste, futur,
oui,
peut-être.
Oui,
on ne sait jamais.
Ma question est celle-ci.
Oui, frère.
Je veux parler que des fois, on peut remercier un membre qu'on a dans, dans le comité exécutif ou même dans l'église pour telle ou telle faute. Mm-hmm. Jusqu'où on peut aller? Parce que cette révélation, dans le sens que notre soeur ou notre frère est dans le péché, il faut peut-être prier pour lui. Et puis...
En général, ce n'est pas par révélation. C'est par témoignage. On ne fonctionne pas dans un domaine-là par révélation.
Okay. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que normalement, vous avez dit qu'on peut remercier directement la personne.
On l'a... Normalement, il y a une sanction. Quand quelqu'un est placé dans une position de leadership, le pasteur doit avoir le courage de sanctionner la personne. Ça, c'est très important. Si par exemple quelqu'un dirige la louange ou s'occupe des enfants ou a une responsabilité dans le protocole ou quoi que ce soit, si cette personne tombe dans le péché, elle doit être sanctionnée. C'est-à-dire que pour un temps, elle est relevée de ses fonctions. Quand un chrétien tombe dans le péché, c'est qu'il a eu un problème quelque part dans son caractère. Donc il a besoin d'être restauré. Et tant qu'il n'est pas restauré, il ne faut pas le mettre devant. Sinon, il risque, ça risque d'empirer. D'accord ? Et d'autre part, il ne sera pas performant s'il vit dans le péché. Ça, c'est une règle de leadership.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.